Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ce nouveau podcast Cœur à Cœur. Je te fais une introduction avant de commencer ce podcast parce que peut-être que tu te poses la question de pourquoi il y a ce titre ou alors de quoi on va parler aujourd'hui. En fait, tu le sais, dans mon podcast Cœur à Cœur, je veux parler des relations, je veux parler de l'identité, je veux reparler vraiment de notre place aussi. Et cette question, est-ce que la femme peut prêcher? Quelle est la place de la femme dans l'église? Elle revient tellement souvent. Parfois, c'est des personnes qui se posent véritablement cette question. D'autres, c'est pour attaquer et dire qu'en fait, une femme n'a pas le droit de parler. Et je me suis dit que j'allais profiter de ce podcast Cœur à Cœur pour susciter Laurent, qui est un enseignant et qui est reconnu pour ses enseignements et son ministère, pour répondre justement à cette question avec la parole de Dieu. J'aurai l'occasion de faire d'autres podcasts avec lui parce que c'est une encyclopédie, parce que vraiment, j'ai apprécier son savoir et le temps en fait qu'il prend pour répondre à chaque question de notre siècle. Et donc tu vas découvrir dans ce podcast la place de la femme, que dit réellement la Bible et comment faire face à ces interprétations bibliques qui parfois peuvent détruire des ministères. Donc sois encouragé au travers de ce podcast et j'espère qu'il pourra te bénir. N'hésite pas à me faire un retour et je laisse le podcast se commencer. Hello les amis et bienvenue dans ce nouveau podcast Cœur à Cœur. Et pour ce podcast, je reçois Laurent Favre. Bienvenue Laurent Favre.
Merci.
Laurent Favre, c'est un père pour beaucoup, une figure dans la foi. Il est assez connu en Suisse. Tu es vraiment un pionnier dans beaucoup de choses. Tu as fondé plusieurs enseigne plusieurs ministères, mais celui dont je connais le plus, c'est IME, les conférences IME, donc qui sont des conférences mondiales où tu propulses un réveil, tu emmènes des ministères à s'agrandir, à croître, à se développer. Et c'est incroyable, vraiment. J'ai eu la grâce de pouvoir te connaître depuis 7 ans maintenant. Tu es un merveilleux enseignant, tu es reconnu pour la parole que tu chéris et que tu aimes. Je ne sais pas si j'ai fait le tour, mais tu fais beaucoup pour la Suisse, pour le canton de Genève, enfin bref, c'est vraiment un pionnier dans de belles choses et puis c'est un père pour moi que j'apprécie véritablement. Et aujourd'hui, je te reçois parce que j'aimerais qu'on parle d'un sujet très épineux pour ce temps. Je reçois beaucoup de questions à ce sujet. C'est la place de la femme dans l'église. Est-ce que la femme peut enseigner? Est-ce que la femme a le droit de prêcher? Est-ce que la femme a le droit de parler? Même ça va très loin des fois, hein, c'est juste le fait de parler de Christ des fois qui, pour certains, peut poser des questions. Et donc, quel merveilleux enseignant j'ai pour répondre justement à ces questions dans cette vidéo.
Bon, la question, elle est légitime parce que la parole de Dieu a des choses à dire sur la place de la femme, parce qu'en réalité, c'est bien de la place de la femme qu'il s'agit. Et non seulement la place de la femme, mais aussi sa fonction. Comment la femme peut être une bénédiction alors qu'elle sert à la fois un seul Dieu et tous les hommes?
Alors j'aimerais qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Hein. Il y a deux textes qui parlent de ça, de justement de la femme et de sa place. Il y a 1 Timothée 2:12 qui dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Et puis il y a le verset 1 Corinthiens 14, verset 34 qui dit que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles y soient soumises selon ce que dit aussi la loi. Qu'est-ce que toi, Laurent, à chaud comme ça, tu réponds sur ces deux versets?
Oui, alors ce que j'aimerais préciser, c'est que la parole de Dieu a bien d'autres choses à dire sur la femme que ces deux versets, mais pour l'argument de la liberté que la femme peut ou ne peut pas avoir dans l'assemblée, je pense que c'est bien d'avoir pris ces deux versets en compte, puisque ces deux versets font partie de l'enseignement de Paul à travers ses épîtres, que ce soit aux Corinthiens ou bien à Timothée. Ce que Paul écrit, il l'écrit dans le contexte de la gouvernance et de l'organisation des assemblées, c'est-à-dire quand les disciples se réunissent ensemble. Ces deux passages-là sont des passages à controverse, n'est-ce pas, que beaucoup de gens utilisent pour ne pas donner à la femme la liberté de s'exprimer. Il y a quelque chose de bon que j'aime dans cette approche-là, c'est que ces gens qui prennent ces passages-là sont des gens qui prennent la parole de Dieu au sérieux et qui la lisent d'une manière littérale. Ce sont des gens qui généralement ne la relativisent pas et j'apprécie beaucoup parce que relativiser la parole de Dieu nous amène dans une zone de danger. Et ce sont aussi des gens qui ne jugent pas la parole de Dieu, mais qui se laissent juger par elle. Et je le dis comme cela parce parce que c'est Martin Luther qui disait cela. Il disait, je ne me permets pas de juger la parole de Dieu. Par contre, je fais tout pour me laisser juger par elle. Et je pense qu'on doit garder justement cette bonne attitude, cette bonne approche, cette bonne appréhension de ce que nous dit la parole de Dieu et notamment de ce que nous dit l'apôtre Paul.
C'est vrai, c'est ce qu'on peut vraiment souligner chez eux, c'est qu'ils aiment et ils chérissent la parole de Dieu. Et tu sais, c'est un peu comme les Hébreux qui voulaient tellement pas pécher contre le fait d'utiliser le nom de Dieu en vain, qu'ils l'ont, quand il y a eu cette retranscription avec les Écritures, etc., ils ont juste mis quelques lettres pour justement qu'on puisse pas prononcer le nom de Dieu. Et c'est vrai que c'est un point qui est important à souligner. Mais pour répondre à la question, Laure, est-ce que la Bible est contre le ministère féminin ? Est-ce qu'une femme peut parler, peut ne serait-ce que exhorter ou témoigner dans une église ? Qu'est-ce que dit la Bible alors à ce sujet ?
Alors justement, la Bible va bien au-delà de ces deux versets. Il y a des contre-exemples aux deux enseignements et aux deux instructions que l'apôtre Paul nous donne. On va continuer dans l'argumentation et avant de donner réponse, considérons, si tu veux bien, ces contre-exemples. Je propose d'en donner quelques-uns, mais le premier contre-exemple que j'ai en tête est celui qu'on trouve dans Actes, le chapitre 21 et le verset 9. C'est Paul qui va se rendre à Jérusalem et qui passe par Césarée maritime, au bord de la Méditerranée, qui est la tête de pont entre le peuple juif, la nation d'Israël et le monde romain. Et là, Paul se retrouve à Césarée et il se rend dans la maison de Philippe, qui est dit l'évangéliste, l'un des sept, c'est-à-dire le diacre. Et il est précisé que Philippe avait quatre filles vierges qui prophétisaient. C'est dans ce contexte-là, d'ailleurs, que Agabus vient, un autre prophète, et qu'il va prophétiser, en fait, les persécutions et l'emprisonnement de l'apôtre Paul. C'est intéressant, la précision que Philippe, l'évangéliste, ce diacre, celui qui avait été en Samarie, celui qui se trouvait en Césarée maintenant, avait quatre filles qui prophétisaient. Je crois que c'est important de préciser ce que ça veut dire de prophétiser, parce que prophétiser, ça veut dire être un oracle de Dieu, ou en d'autres termes et dans des termes plus modernes, parler de la part de Dieu. En réalité, prophétiser, c'est prêcher si on considère que la prédication, c'est avant tout de parler aux hommes de la part de Dieu.
Ok, alors attends, est-ce que tu peux le refaire peut-être d'une manière un peu plus compréhensible ? Dans le sens, je comprends que moi, avec comment c'est enseigné dans les églises, prophétiser, c'est je reçois quelque chose de la part de Dieu et je dis ce que je reçois. Donc du coup, je suis un canal, tu vois, pour le Seigneur. Mais du coup, en quoi le lien entre prophétiser et le ministère féminin du fait de parler et de exhorter, quel est le lien en fait entre ce que tu essayes de me dire là ?
Oui, en fait, nous, on fait une distinction parce que dans beaucoup d'assemblées, on ne va pas permettre à une femme de prêcher, mais par contre, si elle reçoit une parole de Dieu, elle pourra la dire en prophétisant. Et en fait, quelle est la distinction entre les deux ? C'est notre organisation avec un pupitre ou avec un micro, le cas échéant. Mais en réalité, elle peut se trouver face aux disciples ou au milieu des disciples. Lorsqu'elle parle, elle va parler. Elle va parler de la part de Dieu. Mais en réalité, ce que je souhaite dire, ça, c'est notre manière d'appréhender les choses. C'est notre compréhension qui est comme cela. Mais en réalité, il n'y a pas de différence entre une personne qui va amener un message de la part de Dieu et une personne qui va prêcher. Pourquoi ? Parce que la prédication est avant tout une parole particulière dans un temps particulier, à des personnes particulières, ou en d'autres mots, une parole de prophétie. Le cœur même de la prédication doit être une parole de prophétie. Et donc, dans ce contexte-là, en réalité, quand la Bible parle de prophétiser, de manière interchangeable, on peut dire qu'elle parle de prêcher. Et quand on dit prêcher, on parle prophétiser.
Waouh ! Ça, c'est une grande révélation, en fait. En réalité, parce que nous, on fait vraiment cette distinction entre prophétiser et prêcher, mais les deux vont ensemble, en fait, bibliquement parlant.
Les deux vont ensemble, bibliquement parlant. Et donc, ces quatre filles de Philippe l'évangéliste prêchaient la parole de Dieu. Et en réalité, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit qu'elles recevaient l'héritage de leur père, qui lui-même était un prédicateur, tout diacre qu'il était.
Waouh !
C'est extraordinaire.
C'est extraordinaire.
Bon, Ça, c'est un exemple. Mais certains pourraient dire, soit c'est un exemple finalement descriptif, mais pas prescriptif. Mais en fait, ce que vivent les filles de Philippe, l'évangéliste, c'est l'accomplissement des prophéties. Et notamment, la prophétie du prophète Joël, dans Joël 2, à partir du verset 28, c'est une prophétie qui est reprise par l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte. « Car dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Et ensuite, il donne une évidence, il donne des signes de cet esprit qui va être répandu. Et un des premiers signes, ou le premier signe qui est donné, c'est « Et vos fils et vos filles prophétiseront. »
Yes.
Donc, en d'autres mots, « Et vos fils et vos filles parleront de la part de Dieu, ou seront des oracles de Dieu, ou porteront la parole de Dieu, ou prêcheront. »
Est-ce qu'il y a d'autres exemples dans la Bible? Parce que là, donc, il y a les filles de Philippe. Est-ce qu'il y a d'autres exemples, que ce soit dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament, bah, sur lesquels on pourrait apporter des précisions sur le ministère féminin?
On va prendre un exemple dans l'Ancien Testament. Tout en sachant que l'Ancien Testament n'est pas périmé. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, on fait une distinction qui doit être faite, mais en fait, il y a un fil conducteur, c'est la poursuite de l'histoire. Donc, regardons d'où nous venons et voyons un peu le rôle de la femme, comme nous pouvons le trouver dans l'Ancien Testament, dans la Bible. Alors, on peut prendre l'exemple de Déborah. Alors, c'est intéressant parce que Déborah, elle était prophétesse et en même temps, elle était juge en Israël. Et quand elle nous est présentée comme telle, elle nous est présentée comme étant la femme d'un tel. Donc, c'est intéressant parce que parmi tous les juges, eh bien, il y a eu une femme qui portait en réalité le poids du gouvernement de la nation d'Israël et qui en même temps était une femme qui parlait de la part de Dieu, c'est-à-dire une juge à part entière, comparable à tous les autres juges dont on a entendu parler et qui ont contribué à constamment ramener le peuple à son Dieu.
Ok, je vois, c'est merveilleux. J'aimerais que tu puisses prendre un troisième exemple pour montrer juste des témoignages dans la Bible de ministères féminins et qui parlent, qui ont une voix parmi leur nation ou dans leur temps. Est-ce que tu as un autre exemple?
Alors, un autre exemple. Donc, on a parlé des quatre filles de l'évangéliste Philippe. On a évoqué, en fait, l'accomplissement des prophéties et de cet esprit qui est répandu sur toute chair. Entre parenthèses, une ère prophétique dans laquelle nous vivons encore aujourd'hui. On a mentionné Déborah. On pourrait mentionner Priscille. Priscille, aussi appelée Prisca, qui était l'épouse de Aquila. Le livre des Actes des Apôtres nous en parle. Paul en parle dans ses épîtres. Parfois, il parle de Aquila et Priscille. Parfois, il parle de Priscille et Aquila. Parfois, il appelle Priscille Prisca, d'ailleurs, un diminutif. N'est-ce pas? Et alors, c'est intéressant, par exemple, dans le livre des Actes des Apôtres, on retrouve ce couple pour la première fois. En réalité, c'est un couple qui vient de Rome, mais les Juifs sont chassés de Rome, ils se retrouvent à Corinthe, et à Corinthe, ils rencontrent un homme. On trouve ça dans Actes chapitre 18. Je tourne parce que je pense que ça vaut la peine de le mentionner. Donc, ils rencontrent un Juif qui est nommé Apollos. Et puis Apollos est un enseignant qui est originaire d'Alexandrie. C'est intéressant parce qu'Alexandrie, c'est aussi le creuset de la civilisation. C'est là où se trouve une grande partie de la connaissance, notamment de la connaissance du monde romain, du monde gréco-romain. Il se retrouve et cet Apollos était un enseignant de la Bible. Et il le retrouve en l'occurrence à Éphèse. Et il ne connaissait que le baptême de Jean. Il enseigne tout ce qu'il connaît de l'Ancien Testament, jusqu'à Jean le Baptiste, jusqu'à Jean le prophète et jusqu'au baptême de Jean. Donc, il enseigne la bonne nouvelle, il enseigne le royaume de Dieu, il enseigne la repentance, il enseigne le baptême, mais il lui manque quelque chose. Et alors, qu'est-il dit lorsqu'il rencontre Aquila et Priscille? Eh bien, il dit, il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquila et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Alors, c'est intéressant parce que on aurait pu mentionner que Aquila a rencontré Apollos et lui a expliqué plus exactement la voix de Dieu. Mais c'était pas que Aquila, c'était Aquila et Priscille qui, au pluriel, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Et donc, ce couple, Aquila et Priscille, Priscille, Aquila, on va le retrouver à d'autres endroits parce qu'ils vont être des collaborateurs intimes de l'apôtre Paul. Eux aussi sont des fabricants de tentes, comme Paul a été fabricant de tentes. Et ils vont travailler ensemble, parfois étant réunis ensemble, parfois étant dans des lieux géographiques différents. D'ailleurs, on apprendra plus tard que Priscille et Aquila ont une église dans leur maison.
Alors, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, Laurent. Vraiment, parce que tu nous as pris trois exemples, justement, de la parole de Dieu, où il y a des femmes qui exercent, qu'elles soient célibataires, qu'elles soient jeunes ou qu'elles soient mariées. Mais du coup, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est... La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et Dieu ne peut pas se contredire dans sa parole. Tu vois, des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. On a l'impression qu'il est dit quelque chose et puis il est dit son contraire. Alors, pourquoi, tu vois, Paul, il vient et puis il enseigne ça aux Corinthes et puis il enseigne ça à son fils dans la foi, Timothée. Pourquoi il dit ces versets qui, aujourd'hui, sont clairs mais freinent beaucoup le ministère féminin? Pourquoi il le dit alors que... lui-même travaille avec des femmes, il y aurait d'autres exemples, hein, des ministères féminins où elles œuvrent pour le Seigneur, où elles prêchent la parole, où voilà, il y a toutes ces choses, et que dans la Bible, on a ces exemples. La Bible ne se contredit pas.
Non, la Bible ne se contredit pas. On a fait un exercice intéressant, parce que quand on prend un texte hors de son contexte, on peut en faire un prétexte. Mmh. Et malheureusement, trop souvent, c'est de cette manière qu'on appréhende la Bible. C'est-à-dire qu'on va picorer, on va prendre un verset ici et puis on va construire, alors je ne vais pas dire toute une théologie, mais un enseignement, une pensée, mais une pensée qui n'est pas forcément biblique. Parce que le texte est pris hors de son contexte. Donc la première règle, c'est toujours lire la parole de Dieu dans son contexte. Okay. Dans son contexte, le contexte du texte.
Ouais.
D'accord ? Rien que du texte. C'est ce qu'on a essayé de faire. Et comme tu le dis très justement, la parole de Dieu ne peut pas se contredire. Et pourtant, il semble qu'il y ait des contradictions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il doit y avoir une explication.
Oui.
Et donc, quand on fait face à une situation comme celle-ci, on a l'opportunité d'approfondir pour découvrir quelle est l'explication. Pourquoi est-ce que Dieu parle de cette manière ? Mais qu'est-ce qui amène Paul à dire des choses comme ce qu'il dit et qui paraissent difficiles parfois à recevoir, n'est-ce pas ? Eh bien, la deuxième phase, c'est le contexte historique. C'est le contexte du temps. Et attention, toujours et encore sans relativiser ce que la parole de Dieu dit. Donc, toi, moi, nous tous, nous sommes ici pour dire « il est écrit ». On n'est pas en train de remettre en question ce qui est écrit, on essaye de comprendre ce que ça veut dire.
Oui, parce que la Bible, c'est la Bible et qu'on ne peut pas, on est d'accord qu'on ne transforme pas les Écritures, on ne les adapte pas à nous-mêmes ou à notre siècle, mais la Bible reste la Bible.
C'est très, très important. On n'adapte pas la Bible à notre vie. On adapte notre vie à la Bible. Alors, il doit y avoir une explication. Et ma compréhension des choses est la suivante. Il faut se rappeler qu'à cette époque, la femme n'a pas accès à l'éducation. Et ce qui est vrai de cette époque l'a été pendant des siècles
ouais.
Voire des millénaires, n'est-ce pas ?
Jusqu'à pas longtemps même.
Jusqu'à il n'y a pas longtemps, parce qu'il faut se rappeler, par exemple, on parle de la Réforme, parlons de Jean Calvin. Jean Calvin a rendu l'école obligatoire, il a établi l'école, il a établi l'université, et il l'a rendu obligatoire pour les garçons et pour les filles, ce qui était révolutionnaire, ou ce qu'on peut dire, c'est que c'était vraiment une réforme à part entière. Dans ce contexte-là d'une éducation qui n'est pas accessible aux femmes, aux petites filles et ensuite aux jeunes femmes et aux jeunes dames, c'était une situation qui ne correspond pas au royaume de Dieu. Ça ne correspond pas aux valeurs fondatrices que Dieu veut établir dans une société. C'était le fait de l'homme.
La culture.
Le fait d'une culture, le fait d'une pensée, mais d'une pensée purement humaine. Et d'ailleurs, une pensée que Jésus va défier. Et il va en fait amener un ministère à controverse. Et Jésus a été beaucoup dans la controverse. Et on ne doit pas avoir peur d'être dans la controverse. Et une approche qui a été une approche révolutionnaire. Mais qu'est-ce que je veux dire ? Il y a un film bien connu qui s'appelle Yentl avec Barbara Streisand. Et Yentl est une jeune fille juive qui veut aller à la yeshiva, c'est-à-dire qu'elle veut suivre une école rabbinique, une école biblique, mais elle n'a pas accès parce que c'est une fille. Eh bien, elle va se déguiser en garçon et elle va essayer en fait de tromper son monde, dans le bon sens je veux dire, de tromper son monde pour pouvoir avoir accès à la parole de Dieu. Lorsque Jésus vient, il va choisir des disciples. Il va choisir notamment ceux qui vont devenir ensuite les 12. Et parmi ces disciples, il y a des femmes de son entourage, des femmes dans son intimité. Alors on l'oublie souvent, pourquoi ? Parce qu'on va parler de Simon-Pierre, Jean et Jacques, les trois disciples qui étaient particulièrement proches de lui. On va parler des 12, on va parler des 70. Et puis on oublie un peu les femmes. Pourtant les femmes étaient là. Elles étaient là, elles sont là, elles sont mentionnées à répétition. On mentionne aussi leur nom également. Et donc ces femmes, elles suivaient Jésus durant son ministère, qui était un ministère rabbinique, qui était une école, qui était une yeshiva, qui était une école de la parole de Dieu, une école de vie, une école ministérielle. Et dans cette école-là, il y avait des femmes. Et donc, en réalité, Jésus a donné accès aux femmes à l'éducation.
Oui, parce que c'était révolutionnaire. Hein. On ne s'en rend pas compte aujourd'hui, ça paraît normal. Mais à l'époque, déjà une femme en public avec un homme qui n'était pas de sa famille ou avec lequel elle n'était pas mariée, c'était inconcevable. Et en plus de ça, des femmes qui suivent un rabbi dans sa conquête, dans sa quête, dans son chemin, et qui vraiment étaient impliquées comme ces femmes-là, c'était révolutionnaire. Ça on l'oublie. Hein.
Mais oui, donc c'est qui ? C'est des Marie Magdala, c'est des Suzanne, c'est Marthe et Marie, qui sont très très proches de Jésus, qui sont des disciples, qui sont des amis de Jésus. On voit Marie au pied de Jésus et Marthe qui se plaint parce qu'elle a beaucoup de choses à faire et que Marie ne l'aide pas. Qu'est-ce que Jésus dit ? Jésus dit Marie a choisi la part qui ne lui sera pas ôtée. En d'autres mots, ce qu'il est en train de dire, c'est que je donne accès à l'éducation de la parole aux femmes. C'est absolument révolutionnaire. Et c'était très controversé à l'époque.
Oui. Alors attends, juste pour revenir un peu sur notre sujet, tu as dit que les femmes n'avaient pas accès à l'éducation. Donc on reprend ces versets-là de Paul, dans Corinthiens et à Timothée. Concrètement, comment ça se passait dans les églises ? Pourquoi Paul dit ça ? Donc on a compris, les femmes manquaient d'accès à l'information, à l'éducation religieuse, etc. etc. Mais donc, dis-moi en plus, Laurent.
Oui, alors en fait, Paul, aussi paradoxal et contradictoire que ça puisse paraître, Paul suit Jésus en donnant accès à l'éducation aux femmes. Donc, les femmes n'ont pas eu cette éducation, et donc qu'est-ce qu'il leur dit ? Il leur dit, mais gardez le silence, parce que c'est en gardant le silence et en écoutant que nous apprenons. Et ensuite, il va même un petit peu plus loin en disant, ben, quand vous avez des questions, ben, au lieu de freiner toute l'assemblée, quand vous êtes chez vous, posez la question à votre mari qui, lui, a suivi une éducation, l'éducation à laquelle vous n'avez pas eu l'opportunité d'accéder.
Oui.
Et donc, en réalité, quand Paul dit, je ne permets pas à la femme de parler ou que la femme garde le silence, en fait, il est en train de leur dire, la femme doit d'abord apprendre et, bonne nouvelle, dans l'église, dans ce ministère-là, dans cette église, eh bien, nous suivons les pas du maître, la controverse, la révolution, c'est-à-dire nous donnons accès à l'éducation à la femme. Une fois que cette femme est éduquée, eh bien, peut-être sera-t-elle appelée elle-même à transmettre son éducation à d'autres.
Oui, et en fait, tout ce que tu nous dis contrebalance un peu les choses, c'est de dire que Paul n'est pas contre le ministère féminin, mais Paul est un disciple, un apôtre d'ordre. Et il parle de quelque chose qui est important, tu vois, il parle par exemple de la soumission, il dit « je veux que toute femme soit soumise » et puis après il parle de la relation maritale, etc. Et moi je crois qu'une femme peut apporter la parole, je crois qu'une femme a plein de ressources. Je ne peux pas croire que Dieu n'utilise pas ces femmes quand je vois des ministères internationaux de femmes qui prêchent, qui exhortent et qui convertissent des âmes et des âmes. Je crois vraiment que Dieu utilise les femmes, mais je crois, et c'est important de le préciser, qu'il y a une histoire d'ordre et de soumission
et aux autorités dans lesquelles tu exerces et à ton mari quand tu es une femme. Et ça, j'aimerais qu'on puisse aborder ce point aussi parce qu'il peut trop y avoir de dérives dans le sens, il y a des églises, tu l'avais dit une fois, il y a des églises très parole, et ça on aime parce qu'ils aiment la parole de Dieu, très axées sur la lettre, mais à contrario, tu vois, il y a des églises qui sont un peu négligents sur la Bible et qui la mettent un peu de côté en prenant que ce qui les arrange. Et donc, moi, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est pouvoir discuter que Paul n'est pas contre le ministère de la femme, Dieu n'est pas contre le ministère féminin, notamment dans l'exhortation, l'évangélisation, voilà, prêcher la parole de Dieu, mais qu'il y a un cadre.
Oui, effectivement. Ce qu'on a vu, c'est que la femme a accès à l'éducation, elle sera éduquée, c'est pas en parlant, mais en écoutant, et alors qu'elle sera éduquée, le Seigneur va l'appeler à transmettre l'éducation à d'autres. Ça commence à la maison, d'ailleurs.
Avec les enfants.
Voilà, avec les enfants. Ça commence là, avec les enfants dans la société et aussi dans l'Église. La parole de Dieu n'est pas contre le ministère féminin. Au contraire, il encourage le ministère féminin. Non seulement, c'est une question d'appel, non seulement une femme peut prêcher ou peut enseigner, peut prophétiser, comme on le disait, mais si elle est appelée à le faire, elle le doit, elle doit le faire. Et donc, ce n'est pas simplement toléré, ce n'est pas simplement une question d'autorisation, c'est une question de vocation. Et je pense que ça, c'est très, très important à comprendre. Et ce qui est très, très important à comprendre, c'est que nous n'allons pas opposer l'esprit et la parole. Et c'est ce qu'on a essayé de faire finalement en disant ben, où est l'explication ? Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire dans le contexte à la fois de la Bible et des temps dans lesquels il vivait ? Et nous voulons voir l'Esprit de Dieu répandu sur toute chair, et partout où l'Esprit de Dieu est répandu sur toute chair, nous verrons des fils et des filles prophétiser. C'est là le premier signe qui est donné, et je crois que c'est très très important que nous ne freinions pas ou que nous ne stoppions pas, comme si on pouvait le faire, l'œuvre de l'Esprit du Seigneur, car là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Maintenant, j'aimerais faire écho à ce que tu disais, parce que c'est très important. Finalement, nous sommes en train de discuter de la place que la femme a dans l'Église, et elle a une place essentielle dans l'Église. Imagine qu'on aurait une Église faite que d'hommes, ou une Église faite que de femmes, ou une Église faite que de personnes âgées, ou une Église faite que de jeunes. Mmh. Non, le Seigneur est un Dieu de diversité, et il rassemble cette diversité pour que l'image soit la plus complète possible. Dans cette image-là, il y a un certain ordre. Dans cette image-là, il y a des grands principes. Dans cette image-là, il y a une autorité. Partout où il y a une autorité, il y a aussi une soumission.
Ouais.
Donc, l'autorité et la soumission. Et oui, c'est important, mais c'est important pour une femme comme c'est important pour un homme, que partout où il va, partout où il amène la parole de Dieu, partout où il va parler de la part de Dieu, eh bien, qu'il ait une attitude de soumission par rapport à l'autorité locale de là où il se trouve. Raison pour laquelle on peut le voir notamment dans 1 Corinthiens 14 où Paul dit « L'esprit du prophète est soumis au prophète. » Pourquoi ? Parce qu'il n'agit pas seul, il agit en groupe et qu'il apprend à se soumettre aux autres. D'ailleurs, chacun apprend à se soumettre aux autres. Nous nous soumettons les uns
avec les autres.
Et oui, dans cette soumission-là, la femme est appelée à se soumettre à l'homme qui a l'autorité, si il a l'autorité. Parce que je crois que ça, c'est très, très important à comprendre, parce que l'autorité est avant tout et littéralement une source de croissance. Donc, si l'homme veut que la femme se soumette, il faut aussi que lui s'assure à être une source de croissance pour elle. C'est un tout.
C'est un tout,
C'est une médaille avec pile face, avec à deux faces.
Ouais, par exemple, moi, tu vois, donc j'ai eu la grâce de pouvoir aller dans quelques lieux, etc. Et toujours, je suis toujours soumise aux autorités de là où je vais. Je vois un peu ça comme une maison quand t'es invité, que t'es pas chez toi, même si vous avez le même esprit, même si voilà, vous êtes dans la même fraternité, on va dire, il faut toujours s'adapter aux règles là où tu vas et respecter le lieu et l'autorité ou la personne qui détient en fait ce lieu. Et je trouve que c'est vraiment important de lier ce ministère, que ce soit pour les femmes ou les hommes, d'apporter la parole, d'exhorter, d'évangéliser, peu importe, avec la soumission. Mais, tu vois, il y a des fois des choses qui sont mal interprétées où, par exemple, une femme devrait être soumise à tous les hommes. Il y en a qui prennent ce verset et qui disent une femme devrait être soumise à tous les hommes et qu'en gros, à partir du moment où il y a des hommes, elle est soumise. Mais déjà, c'est un principe de réciprocité. La Bible parle de se soumettre les uns les autres. Et ensuite, il y a un principe d'autorité, donc les autorités de l'Église, l'autorité de ton mari quand tu es marié, etc., qui fait que c'est un équilibre à avoir. Tu ne peux pas dire n'importe quoi et en même temps, tu dois répondre à certains principes de la Bible. Et c'est bien, c'est ce que j'aime avec ce que tu nous as partagé aujourd'hui, c'est que à la fois, tu nous montres des exemples de femmes qui ont eu un ministère, qui ont eu une voix, que le Seigneur les a utilisées avec la parole. Et en même temps, tu rappelles le contexte de ces versets et pourquoi Paul le dit. Et tu transformes un peu notre mentalité sur Paul et contre le ministère de la femme. Paul encourage en fait la femme à s'éduquer, à apprendre pour être une source d'enseignement après dans des milieux divers, hein, les enfants, l'assemblée, enfin peu importe les âmes qui ont besoin de dehors. Et en même temps, on se rappelle que sans soumission, les uns les autres, sans soumission aux autorités, sans respect d'un certain protocole dont Paul parle hein, dans 1 Corinthiens. Moi, je suis fascinée par comment il construit l'Église et les ministères autour de l'Église. Tout ça fait qu'on arrive à un équilibre et qu'on rentre dans la vocation de Dieu.
Mais oui, bien sûr. Lorsqu'on parle de l'apôtre Paul, on peut identifier à peu près 46 relations clés. Et parmi ces 46 relations clés, qui sont des noms que nous retrouvons dans ces épîtres ou dans le livre des Actes des Apôtres, il y a bon nombre de femmes. On a mentionné Priscille, mais on pourrait en mentionner d'autres. Non, l'apôtre Paul n'est pas contre le ministère des femmes. Et lorsqu'il dit à la femme de se soumettre, en fait, il lui dit de venir sous une couverture, ouais, sous une protection. Yes. Et si tu viens sous la couverture et sous la protection, c'est justement pour pouvoir déployer ton potentiel et pouvoir œuvrer selon l'appel de Dieu dans ta vie. Et je crois que c'est un tout. Donc, quand l'apôtre Paul parle d'autorité et de soumission, il touche aux clés de voûte de la gouvernance dans l'Église. Et rappelons-nous de cela, comme l'éducation de la parole de Dieu commence à la maison, l'autorité, la soumission commencent à la maison également. Amen. Et que la femme est appelée à se soumettre à son mari en prenant une femme, un couple, une femme mariée, et le mari est appelé à aimer sa femme comme l'Église est aimée de Jésus-Christ.
Amen.
Et donc c'est un tout, on ne peut pas simplement prendre une partie en occultant l'autre partie, cela serait à nouveau un prétexte.
Amen. Amen. Et j'aimerais qu'on conclue vraiment sur ça, c'est que la parole de Dieu est complète et qu'on peut lui faire tout et rien dire quand on prend un verset comme ça et qu'on le sort de son contexte ou même de la pensée globale en fait de celui qui a dit ça. Et c'est très important vraiment de prendre la parole dans sa version complète et d'étudier avant d'en faire une doctrine. Et je me réjouis vraiment d'avoir fait ce podcast avec toi.
Oui, merci beaucoup. Je pense que ta conclusion est juste, complète. L'homme n'est rien sans la femme, la femme n'est rien sans l'homme. Il y a la lettre, il y a l'esprit, il y a l'autorité, il y a la soumission. Et tout cela nous amène à progresser ensemble et à exprimer en fait les vertus du royaume de Dieu, les prémices du royaume qui est à venir.
Amen. Que le Seigneur te bénisse et puis j'espère que ce podcast a pu bénir plusieurs peut-être femmes qui sont appelées à parler, à prêcher et peut-être calmer d'autres qui par excès de zèle voudraient entrer dans un ministère qui n'est pas le leur. En tout cas, je prie vraiment au nom de Jésus de voir les fruits en fait de comment le Seigneur utilise des femmes dans cette génération pour sa gloire et puis voilà.
Amen.
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 Alléluia.
On se réjouit.
J'espère que vous avez aimé ce podcast. On l'a vu hein, vraiment dans la Bible ou même dans l'histoire. Dieu a utilisé des femmes pour pour sa gloire, pour annoncer, pour prêcher la parole de Dieu. Nous voulons vraiment être en accord avec les Écritures. Et je crois que c'était important ce que le pasteur Laurent Favre nous a enseigné aujourd'hui sur base de la Bible. Amen. J'espère vraiment que ça a pu vous nourrir, vous toucher. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast. Soyez bénis.